someone else apart from me, Sarah. I won't be here much longer.
The girl. The boy. The school. The rock. Fragments of a mystery from a summer long ago.
Good morning, girls.
Good morning, Mrs. Appleyard.
Well, young ladies, we are indeed fortunate in the weather for our picnic to Hanging Rock. I have instructed Mademoiselle that as the day is likely to be warm, you may remove your gloves once the drag has passed through Wood End. We'll partake of luncheon at the picnic grounds near the rock. Once again, let me remind you, the rock itself is extremely dangerous. You are therefore forbidden any tomboy foolishness in the matter of exploration, even on the lower slopes.
Classic novel of mystery and suspense is now a spellbinding motion picture.
Madame, something terrible has happened.
Three of your young ladies and Miss McCraw are missing on the rock.
What happened?
Well, now, Mrs. Appleyard, that's just the trouble. Nobody knows what happened.
Miranda! Miranda!
What is the secret of Hanging Rock? And who will it claim next?
Bon vendredi tout le monde et bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Mon cher Christian, je connais pas ce blockbuster. Oui. J'ai l'impression qu'on écoute une version d'Autant porte le vent, mais est-ce que c'est des soucoupes volantes qui emportent quelqu'un, de ce que j'ai compris?
Oui, effectivement, je vais revenir un peu là-dessus, mais ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce, qui est assez longue d'ailleurs, du film Picnic à Hanging Rock en français. En anglais, c'est Picnic at Hanging Rock. Et c'est un film australien de 1975 et qui a été récupérant, donc qui raconte l'histoire d'un groupe de gens qui vont à Hanging Rock, hein, ça se trouve à peu près à une heure de route au nord de Melbourne. Okay. On l'appelle Hanging Rock parce que c'est une crête rocheuse, puis entre deux parois il y a un gros rocher qui est tombé et qui est resté coincé dans la paroi. Donc, c'est le rocher suspendu. Et c'est un endroit qui, depuis très longtemps, est adoré, vénéré par les aborigènes. Et donc, l'histoire du film nous raconte un groupe de jeunes. On est au début du... On est en fait en l'an 1900, donc début du 20e siècle. Et là, il y a des jeunes filles d'un collège privé qui se rendent à Hanging Rock. Et trois d'entre elles et une institutrice vont disparaître. Et cette histoire-là est présentée comme un fait divers et elle a été récupérée dans la culture populaire. Le film, il est peu connu peut-être pour les gens ici, mais il faut savoir qu'en Australie, quand on débarque en Australie, dans les grands mystères qu'on nous évoque dès les premières minutes, il y a le pique-nique à Hanging Rock. Okay. C'est un film qui est réalisé, il a été réalisé en 75 par Peter Weir. On le connaît surtout ici, là, en Amérique du Nord, pour des films comme Le Truman Show, La Société des Poètes Disparus, je sais pas si ce sont des films qui te sonnent une cloche. Le Master and Commander, le Maître à bord avec Russell Crowe. Témoin sous surveillance, Witness, avec Harrison Ford. Donc, ce sont des films des années 80, 90. Peter Weir a beaucoup tourné à ces époques. Et il est originaire d'Australie. Et un de ses rêves était, bien sûr, de tourner ce pique-nique à Hanging Rock, qui est un film magnifique. C'est un feu. Il faut se rappeler qu'on est dans les années 70. Ce sont des scénarios à développement. C'est très, très lent, mais c'est beau, c'est bien tourné. Il y a des images qui sont très léchées, là, presque vaporeuses. C'est un style qui avait été développé par David Hamilton, qui a fait un film, un classique qui s'appelle Billy Tiss dans les années 70. Un film qui, aujourd'hui, serait peut-être interdit, là, parce qu'on voyait des jeunes filles mineures nues.
Oh boy, hein, okay.
Il y a une histoire d'amour là-dedans. Bon, c'est un film à la fois érotique et romantique, Billy Tiss, mais le tournage de David Hamilton est passé un peu à l'histoire pour cette façon là, très vaporeuse de tourner des images. Et Peter Weir s'en était visiblement inspiré quand il a tourné Picnic à Hanging Rock. Mais bref, je reviendrai là-dessus parce que ce soir, notre émission, on parle d'OVNI. Oui, oui, oui.
Et c'est mon plus grand questionnement. C'est comment des histoires d'affaires disparues peuvent rentrer dans le cadre des histoires d'OVNI parce que c'est la thématique de la soirée. Oui. On recommence notre succession de thématiques et c'est les OVNI.
Oui. Et parce que quand on parle d'OVNI, hein, il y a trois ou quatre histoires, quand on foule le sol australien, il y a trois ou quatre histoires qui rapidement sont ramenées sur le devant de la scène dès que les questions d'OVNI et Picnic à Hanging Rock est l'une d'entre elles. Donc j'y reviendrai parce que la nouvelle de ce soir, en fait, on part d'une actualité et cette actualité, écoute, elle fait suite un peu... Il y a quelques semaines, je ne sais pas si c'était avec toi ou avec ton remplaçant, mais j'ai parlé, mais il me semble que c'était avec toi, j'avais parlé de ce fameux rapport qui est paru aux États-Unis il y a quelques semaines,
oui.
où le département de la Défense, hein, le ARO, hein, A-A-R-O, qui est l'acronyme anglais pour Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines, qui est un organisme qui a été mis en place par le département de la Défense aux États-Unis en 2022. Et ça, pour répondre à l'intérêt que soulevait la question des OVNI. Cet organisme, c'est un organisme étatique, bien sûr, qui dépend du département de la Défense. Et il y a quelques semaines, ils ont rendu public un document. C'est important de revenir un peu sur les grandes lignes de ce document.
Pour faire le comparatif entre les deux nations.
Parce que dans le fond, notre actualité d'aujourd'hui est un peu une réponse à ça. Hein? Lui-même, le document publié il y a quelques semaines par l'ARO, était une réponse à des auditions qui avait eu lieu au Congrès l'été dernier, donc l'été 2023, où un type, David Grosh, et les gens s'en rappelleront, ceux qui suivent un peu cette actualité insolite et mystérieuse, et même au-delà de ça, tous les médias avaient parlé de ça ici, là, tous les réseaux de télévision CNN, pas CNN, LCN, Radio-Canada, tous les grands réseaux avaient parlé de ça.
Et je confirme donc, que ça a été un de nos premiers sujets au retour du temps des fêtes à ce sujet-là. Ouais.
Voilà, donc David Grosh, il arrive l'été dernier, il se présente au Congrès américain et il raconte une histoire assez fantastique. Il dit j'ai eu connaissance, c'est un ancien militaire, il dit j'ai eu connaissance que depuis des années, en fait depuis les années 30, le gouvernement américain aurait mis la main sur plusieurs aéronefs de nature non humaine. Hein. Il n'ose pas dire extraterrestre, mais c'est tout comme hein, non humain. Ça veut dire que ça implique que ça vient d'une autre planète, d'une autre dimension, d'un autre univers, peu importe. Il dit des aéronefs non humains. Il dit ces aéronefs avaient à certaines occasions il y avait des passagers à l'intérieur, donc le gouvernement dispose également des corps de ces passagers. Et là, il dit, et là évidemment, c'est très surprenant. Il ajoute même que lui et des gens qui ont eu vent de ces histoires-là ont été menacés, même dans certains cas, on aurait été jusqu'au meurtre pour faire taire les gens qui connaissaient l'existence de ces programmes. Et il y a quand même un talon d'Achille parce que durant son audition, un des membres du Congrès, puis quand je dis un des membres du Congrès, il faut s'entendre. Là, c'est un groupe de 6 personnes, 5 républicains, une démocrate. Donc, quand on sait qu'il y a plus de, c'est quelque chose comme 350 ou 400 élus au Congrès américain, bon, 6 ou 7 personnes, c'est pas le Congrès. Là. T'sais, là, souvent, là, les médias ont tendance à dire le Congrès. Non, c'est
les
pas le Congrès. C'est 6 personnes au Congrès qui comptent pas loin de 400 personnes. Bon, c'est pas pareil. Mais bref. Ces gens-là, à un moment donné, durant la conversation, on pose à David Grosh la question, mais vous, Monsieur Grosh, les avez-vous vus, ces aéronefs non humains et ces passagers non humains? Et David Grosh répond, non, moi, je les ai pas vus, mais je connais des gens qui, eux, en qui j'ai confiance, qui, eux, les ont vus. Puis c'est assez amusant parce qu'au moment où il dit ça, juste assis derrière lui, sur le banc, là, juste en arrière de lui, il se tend la main puis il le retouche, là, juste derrière lui, il y a un type qui s'appelle Jeremy Corbell qui est là avec George Knapp et ces deux personnages, deux joueurs joyeux Luron qui, depuis le début des années 80, font la promotion de Bob Lazar, les extraterrestres et tout le reste. Là. Des vendeux, là. Tu sais, les vendeux du temple sont assis juste derrière lui, là. Tu sais, là. Et ces gens-là font la promotion de ces histoires. Et c'est assez amusant quand David Grush dit, non, mais je connais des gens. Je ne dirais pas qui, mais je connais des gens qui, en qui j'ai confiance, qui, eux, ont lui vend ces histoires-là. Et juste derrière lui, tu vois Jeremy Corbell et David, et George Knapp. Bon, c'est un petit peu, ça fait un peu sourire. Mais néanmoins, quand cette histoire-là est sortie, évidemment, tous les médias se sont lancés là-dessus. Le problème, c'est que lorsqu'on mène une investigation, l'investigation demande du temps, et je sais que je me répète par rapport à ce qu'on avait dit là, au retour des fêtes, là, mais ça demande du temps. Et lorsque la réponse arrive, souvent, on est passé dans l'actualité. On est passé à autre chose. Et quand le département de la Défense, parce qu'évidemment, quand tout ça a été dit devant le Congrès, il y a des gens qui se sont tournés et sont allés voir l'ARO, hein, ce bureau étatique mis en place par le département de la Défense, lequel d'ailleurs a reçu quelques flèches, hein, parce que durant la déposition de David Grush, on pose la question, oui, mais est-ce que vous avez communiqué ces informations, Monsieur Grush, à l'ARO? Hein? Maintenant, nous possédons notre propre organisme étatique au sein du département de la Défense. Est-ce que vous leur avez fait faire preuve, est-ce que vous les avez informés de ça? Et David Grush, de manière assez nonchalante, dit, oui, je les en ai parlé, mais ça semblait pas les intéresser. Alors là, évidemment, tu comprends, c'est comme on essaie de diaboliser l'ARO. L'ARO, elle, va mettre malheureusement 6 mois à donner une réponse parce qu'elle doit enquêter, vérifier des choses. Et quand la nouvelle est arrivée, on était, je crois, en février ou mars dernier. Lorsque la réponse est arrivée, ben on était passé à autre chose et cette réponse-là n'a absolument pas été publiée. C'est passé dans un entrefilet page 23 du journal de Québec. Puis merci bonsoir, on n'en parle pas. Là, ça a peu d'intérêt. La nouvelle était passée. Okay. Et que dit ce rapport-là? Ben ce rapport-là dit ben voilà, on a enquêté sur ce que David Grush a dit. D'abord, on a trouvé dans nos documents absolument rien qui permet de croire que le département de la Défense ait jamais mis la main sur des aéronefs non humains. Rien ne permet de croire qu'il existe des programmes impliquant soit des États ou des services du département de la Défense ou encore des organismes privés qui travaillent des programmes de rétro-ingénierie. Hein. La rétro-ingénierie, je le rappelle pour les gens qui nous écoutent, c'est de prendre un objet plus ou moins exotique, le déconstruire pour voir si on ne peut pas appliquer cette technologie sur de la technologie domestique. C'est un peu, quand tu parles d'extraterrestre, c'est un peu stupide quand même. C'est parce que soyons honnêtes là, de toi à moi, là, si moi, là, je prends mon ordinateur, je l'amène aux États-Unis, ben des ingénieurs aux États-Unis pourront démonter mon ordinateur pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Mais si je prends mon même ordinateur, puis je m'en vais dans une société, là, tu sais, je sais pas, je m'en vais donner ça aux gens qui vivent sur l'île Sentinelle, là, tu sais, qui vivent ouais. pratiquement comme à l'âge de pierre. Il aurait beau démonter mon ordinateur, ils comprendraient rien. C'est un peu comme si je prenais une radio, puis je reculais dans le temps, je la donner au plus grand savant de la cour de Louis XIV. Bon, il ferait rien partout avec ça. Tu sais, il aurait beau démonter mon téléphone portable. Ils sont pas là. T'sais, ils peuvent pas comprendre comment ça fonctionne, ils sont pas là. Fait que si on parle d'une technologie du futur, bon, t'sais, même si on la démonte, je pense qu'on comprendrait même pas à quoi ça sert.
Ben, inversement, Christian, il y a pas des gens qui diraient, ouais, mais c'est parce que eux sont rendus tellement avancés qu'ils comprendraient pas c'est quoi, là, comme les enfants avec les téléphones à roulettes, là.
Ouais, c'est ça, mais bon. C'est quand même un peu.
Je sais mais... le doute.
Ouais, c'est ça, mais non, mais t'sais, tu comprends. Donc, si tu dis, tu peux pas, t'sais, si tu peux démonter une structure, tu peux prendre des structures qui sont proches de nous technologiquement, tu sais, tu peux démonter un avion soviétique, tu peux démonter un avion chinois pour voir comment il fonctionne. Mais tu sais, si je prenais le même avion chinois ou l'avion russe, puis je l'amenais au siècle dernier,
non,
on sait même pas, on est encore aux chevaux, là. Le moteur existe même pas, là. on comprend rien de comment que ça fonctionne, tu sais. Donc c'est un peu quand on parle de technologie extraterrestre, c'est un peu ridicule, mais bon, bref, c'est quand même ce que David Grush avait dit, et la réponse donc de l'ARO, c'est un, on a trouvé aucune trace d'écrasement ou de récupération d'aéronefs de ce type-là, on a trouvé aucune trace de quelques programmes de rétro-ingénierie, et ils vont même plus loin en disant on a rencontré les gens que David Grush a évoqués, hein, dans ses dépositions au Congrès. Ces gens-là ont tous réfuté lui avoir dit ça ou que ce qu'ils racontent est complètement déformé. C'est pour ça qu'ils ont raconté. Et ensuite, Évidemment, tu comprends que les amateurs d'OVNI ont déchiré leur chemise là, tu sais, en entendant ça. Encore une fois, c'est de crier au complot. On nous cache des choses. Puis bon, le gouvernement sait tout et nous dit rien. Mm. Mais dans son rapport, là-haut, et ça nous amène vers la nouvelle d'aujourd'hui, dans son rapport, là-haut a dit, ils avaient prévu ça. Hein, les auteurs disent, on sait que des gens dans le public nous accuseront encore une fois de cacher de l'information. Mais faut-il le rappeler, le département de la Défense aux États-Unis n'est pas le seul à s'être penché sur cette question des ovnis et ne d'avoir rien trouvé et ne pas avoir trouvé ne serait-ce que l'ombre d'une preuve de visite extraterrestre. On n'est pas les seuls. Et il rappelle que le Canada, dans les années 50, ont eu un tel programme qui s'appelait à l'époque Second Story. Ensuite de ça, les Britanniques, sous la férule de Winston Churchill, avaient même créé un bureau sur les soucoupes volantes qui est arrivé exactement aux mêmes conclusions, qu'il n'y avait rien, que ces observations étaient essentiellement des erreurs d'interprétation, des erreurs de perception, mais qu'il n'y avait aucune preuve de visite extraterrestre. On sait également que la France, depuis les années 70, ont un organisme étatique qui s'appelle le GEIPAN, groupe d'études, groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui est dépendant du CNES, le Centre national des études spatiales, et que ce programme, même s'il existe depuis le milieu des années 70, n'a jamais trouvé la moindre preuve de visite extraterrestre. Donc, ce que dit Larousse, c'est, bien sûr, on peut tirer à boulet rouge sur le département de la Défense aux États-Unis, mais vous allez devoir armer vos canons parce que vous allez devoir tirer sur le gouvernement canadien, le gouvernement de l'Angleterre, le gouvernement français, parce que tous ces gouvernements-là ont mené des études comme les nôtres et sont arrivés à la même conclusion. Les observations d'OVNI ne dissimulent en rien la présence ou des visites extraterrestres et encore moins des programmes de rétro-ingénierie sur des aéronefs non humains. Et dans ça, dans ce discours-là, ça a rebondi, évidemment, ça a circulé. Et là, en Australie, ce qui nous amène à notre nouvelle d'aujourd'hui.
Oui.
En Australie, on est à Canberra, où c'est la capitale australienne, où se trouve le Parlement. Et là, évidemment, il y a des gens à Canberra qui ont dit, oui, mais c'est drôle, hein, le gouvernement américain ne mentionne pas l'Australie dans son rapport. Quelle est notre position, hein, un député dit, quelle est notre position par rapport aux ovnis? Parce qu'il faut savoir que dans l'information sur le contre-espionnage, les Américains ont formé un consortium qu'ils appellent le Five Eyes, hein, les cinq yeux. Et ce Five Eyes, il est composé des États-Unis, bien sûr, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.
Okay.
Donc, c'est un consortium. Alors là, on a mentionné dans le rapport que le Canada a enquêté ses ovnis, l'Angleterre, les États-Unis et le Canada, mais on n'a pas mentionné l'Australie. Alors, un député dit, quelle est notre position? Et la réponse a été assez rapide et assez cinglante. Le gouvernement australien a publié un document de 10 pages dans lequel il se place. Il donne son statut. Et son statut est assez vitriolant par rapport à la question des ovnis. Le gouvernement australien dit, bon, premièrement, le gouvernement australien a cessé d'enquêter sur les ovnis de façon officielle en 1996. Donc, partir de 1996...
Je n'étais même pas né, Christian.
Non, donc, il y a eu des observations d'ovnis sur lesquelles, effectivement, le gouvernement australien s'est penché. Mais à partir de 1996, comme il n'avait rien trouvé là-dedans, ou pas de visite extraterrestre, rien du tout, on a fermé les livres. Le même document nous dit, lorsqu'il y a des incidents de nature aérienne, ces documents-là sont envoyés directement pour enquête à l'aviation civile australienne. Et ça ne passe plus par les coulisses de l'armée. Et parce qu'il peut arriver qu'il y ait des incidents aériens. Et ce que le rapport souligne, c'est que les enquêtes menées par l'aviation civile ont trouvé beaucoup de mauvais pilotes, ont trouvé aussi beaucoup de drones, mais pas d'extraterrestres. C'est bon. Donc, ces incidents-là. Ensuite, le rapport mentionne que non seulement ils n'ont jamais trouvé la moindre preuve de visite extraterrestre, mais le rapport ajoute que ils sont au courant que le gouvernement américain a créé l'ARO, hein, ils sont bien conscients de ça, que le gouvernement américain s'intéresse à cette question de phénomènes aériens non identifiés, même s'il faut le savoir que dans les coulisses du département de la défense, un ovni n'est pas un engin extraterrestre, mais plutôt un objet dans le ciel qu'on ne sait pas ce que c'est, et sous-entendre qu'il pourrait s'agir d'un espion étranger, hein, un ballon chinois, on a beaucoup entendu parler, ou des trucs comme ça. Donc, le gouvernement australien dit, on comprend que le gouvernement américain investisse de l'argent pour ça, parce que derrière ces ovnis peut se cacher une forme d'espionnage menée par des nations étrangères, et il est important que le département de la Défense aux États-Unis conserve l'hégémonie de son savoir et de sa technologie, de son arsenal. Et dans ce sens-là, ben, c'est normal qu'ils investissent de l'argent. Mais nous, en Australie, il est peu vraisemblable que l'armée australienne devienne l'objet de cibles d'espionnage de la Chine ou d'un autre pays. Et eux considèrent qu'investir ne serait-ce qu'un cent dans l'étude des ovnis est de l'argent gaspillé.
Ah, ça mérite d'être clair.
Ça, oui, comme tu dis, ça a le mérite d'être clair. Alors là, encore une fois, tu comprends que cette histoire-là, ça ferme la porte complètement. Et quelque part, et là, bon, bien sûr, les amateurs d'OVNI vont encore une fois s'arracher leur chemise. Là, à un moment donné, ils en auront plus dans leur garde-robe à force de l'arracher, de les déchirer comme ça.
Ouais, mais, ça a-tu été controversé, cette déclaration-là, justement?
Bien sûr, bien sûr. Écoute, hein, tous les ufologues australiens, on nous cache des choses.
Okay. Il y a quand même une communauté dans l'ufologie, là.
Oh ouais, et c'est amusant parce qu'à un moment donné, moi, ce que je vois là-dedans, c'est un peu le jeu de l'arroseur arrosé. Et je t'explique. Quand cette histoire-là des ovnis, hein, c'était un peu enterré, là, il y avait, bien, tu peux pas empêcher les gens de croire à quelque chose. Les gens croient aux fées, aux gnomes, au Père Noël, aux nains de jardin, aux monstres de Loch Ness. Tu pourras jamais empêcher les gens de croire à quelque chose. Mais l'histoire des ovnis était un peu relayée au second plan. Hein? Elle était logée un peu au même titre que le monde du Loch Ness puis le Bigfoot. Là, t'sais, là. Mais voilà qu'en 2017, il y a aux États-Unis, ayons pas peur des mots, il y a une communauté de gens, un lobby de la secours volante. Je t'ai mentionné tantôt Jeremy Corbell, George Knapp. Ce sont des représentants de cette communauté-là qui est composée d'une dizaine de personnes à peu près. Ces gens-là sont omniprésents dans les médias sociaux, sont omniprésents sur l'Internet pour parler des ovnis. Ils moussent le sujet des ovnis. La moindre occasion est pour eux l'occasion de mousser le sujet. Et au départ, en 2017, toute une série d'articles était parue dans le New York Times et ça a ouvert la porte à ce... Ça a été en fait la résurrection de ce lobby de la soucoupe volante. Et depuis ce temps-là, ben, ils vendent des documentaires à Netflix, ils vendent des documentaires à télévision, ils sont dans des émissions de radio, ils sont partout. Ils font du fric. Hein, ils n'ont pas peur des mots, ils font du fric avec ça. Et tant et aussi longtemps qu'ils réussissaient, parce qu'au départ, quand ils ont commencé à parler de ça, le gouvernement américain n'était pas intéressé de rouvrir le dossier des ovnis. Ils avaient fermé la porte en 1969 en disant « il n'y a rien là-dedans ». Mais devant cet intérêt, cette montée de l'intérêt pour la question des ovnis, le gouvernement américain a dit « bon, ben écoute, on va se repencher sur la question puisqu'on en parle beaucoup puis tout ça, et le public a droit d'avoir des réponses ». Et ce fameux lobby de la soucoupe volante ont profité au maximum de ça. Tant aussi longtemps qu'ils laissaient entretenir l'idée qu'il y avait quelque chose là-dedans, c'était sérieux, c'était du gros, c'était du lourd, hein, pour dire comme les Français disent, c'est du lourd.
Du lourd.
Là, c'est du lourd. Mais à un moment donné, là, ils commencent à faire face à un problème qu'ils n'avaient pas vu venir. C'est qu'à un moment donné, à force de soulever ce sujet-là, ben, les pays, les communautés répondent. Et ça, probablement qu'ils l'avaient pas prévu. Et là, tu comprends, c'est beaucoup plus facile de faire un documentaire sur les soucoupes volantes, les ovnis. Tu vas voir Netflix, et tu dis à Netflix, moi, j'ai un documentaire à vous vendre ces ovnis, puis c'est sérieux. C'est du lourd. C'est du lourd. Parce que le gouvernement américain s'intéresse à ça, messieurs. Alors, Netflix, hein, ouvre ses goussets, puis allez, hop, on paye. Mais à un moment donné, là, ce qui commence à se produire, c'est que là, les États-Unis disent, c'est bien beau, là, vos ovnis, mais on n'a jamais rien trouvé là-dedans. Alors là, on crie évidemment au complot, on nous cache les choses. Et on a encore du lourd. On retourne voir Netflix, on a du lourd. Le gouvernement s'y intéresse et on nous cache des choses. Ça, c'est du lourd. Mais là, tout d'un coup, la France dit, ah, nous autres, tout ça, on a enquêté là-dessus, on n'a jamais rien trouvé. Oh. Et là, l'Angleterre, on a enquêté là-dessus, on n'a jamais rien trouvé. Là, le Canada répond, on a enquêté là-dessus, on n'a jamais rien trouvé. Là, l'Australie répond, on a enquêté là-dessus, on n'a jamais rien trouvé.
Et ouais. Les États-Unis font cavalier seul.
Fait que là, tu te dis, là, le lobby de la soucoupe volante se retrouve un peu pogné, là. C'est bien beau. C'est bien beau aller dire à Netflix, ça intéresse. Mais là, ça intéresse. Mais là, tous les pays du monde sont en train de te dire qu'ils ont enquêté là-dessus et qu'ils n'ont jamais rien trouvé. Alors, tu fais quoi? T'es-tu en train d'essayer de faire à croire, là, à moins d'être un super naïf, là tu vas essayer de convaincre Netflix pardon, qu'il existe une espèce de cabale internationale à laquelle participent à la fois l'Australie, le Canada, l'Angleterre, la France, et cette cabale-là, qui implique des dizaines, sinon des centaines de milliers de personnes, cache le secret des ovnis depuis les années 50. C'est d'une absurdité déconcertante.
Et je renchérirai là-dessus. Maintenant, dans la mode des documentaires, n'importe qui pourrait arriver et dire, ben moi aussi j'en ai un avec du lourd. Là, je vais dire que c'est complètement faux. Là, fait que, ouais. C'est contre-documentaire et... par-dessus, tu sais, des contre-témoignages, carrément.
Et là, à un moment donné, t'arrives, tu dis, attends une minute, là. C'est bien beau, c'est du lourd, puis tu nous sors la carte de la conspiration. Mais là, la conspiration, on le sait, là, quand il y a deux ou trois personnes impliquées dans un même secret, c'est difficile de garder la confidentialité. Puis là, t'es en train d'essayer de nous faire croire, il y a des centaines de milliers de personnes impliquées sur les cinq continents, qui sont tout au courant de ça, puis tu caches quelque chose. Tu sais, les Américains peuvent toujours te cacher l'écrasement ou la récupération d'un ovni au fin fond du Wyoming. Mais le gouvernement américain n'a aucun moyen de te cacher la présence d'un ovni qui passe au-dessus des Champs-Élysées à Paris. Là, tu sais, là. Donc ça marche pas. Et là, ça devient... En fait, à force de jouer cette carte-là, ben là, le lobby de la soucoupe volante commence à être de moins en moins crédible et commence à avoir de plus en plus de difficultés à vendre leur salade. Parce que là, on n'arrive plus à justifier ça. Comment t'arrives à me justifier que le gouvernement australien, le gouvernement britannique, le gouvernement français, tous les gouvernements qui ont enquêté sur le sujet des ovnis cacheraient la vérité, surtout en 2024, alors que tu pètes, puis le lendemain, en 2 heures après, le monde entier est au courant, non? Comment tu réussiras à cacher de l'information comme celle-là, des photos, des films, hein, faut-il le rappeler, on a 6 à 7 milliards de caméras qui sont disponibles à chaque minute, hein, que ce soit sur les devantures de magasins, que ce soit sur les intersections routières ou le téléphone portable que tu as dans ta poche. Donc tu te dis, là, il y a quelque chose qui va pas, là. C'est bien beau crier au complot, mais là, le complot, ça marchait peut-être en 1940, là. Mais là, en 2024... À moins de vivre dans un monde parallèle, parce que dans le monde des amateurs d'OVNI et dans le monde des théoriciens du complot, c'est un peu semblable, la vision est que le monde meurt pas. Le monde meurt pas, puis le monde n'aime pas l'argent. T'sais? Et ça n'a pas de sens. T'sais, si moi, là, je prends un exemple bien précis, là. Moi, là, Christian Page, je te le dis, là, je suis très honnête avec toi, là. Si j'avais travaillé sur un programme de rétro-ingénierie de soucoupe volante, puis que mon médecin m'avait annoncé que j'avais un cancer en stade 3, la première affaire que j'aurais fait, là, c'est pas d'aller voir ma blonde puis broyer son épaule. J'aurais été voir le Journal de Montréal, puis j'aurais dit, grand, là, vous donner des photos, des preuves, des documents. Vous me payez gratuitement. Je prends ma retraite. Merci, bonsoir. C'est comme ça que ça marche dans le monde. Pas dans l'heure. Et ça, c'est un peu incroyable. T'es en train de me dire que depuis les 80 dernières années, des dizaines, sinon des centaines de milliers de personnes ont été impliquées dans ces programmes-là. Aucune de ces personnes-là a pensé à un moment donné, personne n'est mort, tout le monde était très satisfait de leur affaire. Aucun d'entre eux n'a été atteint d'une maladie mortelle, puis il a décidé d'assurer ses arrières en allant vendre ses photos, ses films, ses documents, des
vidéos. Sa salade, oui.
Pourtant, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que les secrets ne durent pas quand il y a plus de personnes, quand il y a plus de 2 ou 3 personnes impliquées. C'est qu'à un moment donné, il y en a un d'entre eux, ou bien qu'il va décéder, puis on va découvrir ce qui s'est passé, il va laisser des documents, ou il est insatisfait de son sort, ou il sait qu'il va mourir, puis il va assurer sa famille. Il y a toutes sortes de mécanismes. Le monde est le monde. Il y a une expression qui dit là où il y a de l'homme, il y a de l'homerie.
Ouais.
Mais malheureusement, faut croire que dans l'univers des théoriciens du complot, les gens qui défendent cette histoire d'OVNI, mais ça existe pas, ça. Il y a pas d'hommerie. Dans leur univers, à eux, l'hommerie n'existe pas. Les seuls méchants, c'est toujours les gouvernements.
Mais t'as mentionné tantôt, Christian, que on peut pas empêcher les gens de croire à quelque chose.
Non.
C'est parce que la question des ovnis fait partie quasiment d'une question existentielle humaine qu'on n'est pas capable de s'en débarrasser.
Mais en fait, oui, je pense que oui, hein, parce que bon, et la problématique de cette question, parce que c'est un sujet qui est fantastique quand même, on serait visité par des extraterrestres, c'est quand même un sujet qui est fort, c'est du lourd, c'est du lourd.
Ça alors, frappe l'imaginaire.
Ouais. Et ensuite, il y a beaucoup aussi d'éléments qui sont des expériences, tu sais, on en parle comme ça, on se dit, mais écoute, là, ça commence à être difficile en 2024 de continuer à prétendre qu'on est visité par des extraterrestres, alors que tous les gouvernements du monde entier sont en train de s'unir pour dire, il y en en a pas.
Non, c'est ça.
Fait que là, on imagine des complots, toutes sortes de façons. Et pourquoi? Parce que bien souvent, dans l'intimité des individus, il y a M. Tremblay au lac Saint-Jean, Mme Urtibiz à Rimouski, qui, elle, a vu quelque chose dans le ciel. Et elle n'a pas d'explication. Donc, pour elle, là, c'est son expérience empirique qui est la vérité. Je sais ce que j'ai vu. Hein? Et je sais que ce que j'ai vu n'était pas un ballon, c'était pas un avion, ou c'était pas ci, ou c'était pas ça. Donc, forcément, ça doit être quelque chose d'exotique. Parce que, malheureusement, les gens ont de la difficulté à comprendre que notre cerveau, et combien de fois je l'ai répété, notre cerveau est une extraordinaire machine à créer des illusions.
Oui.
Donc, il suffit de voir quelque chose dans le ciel, j'arrive pas trop à le comprendre, et soudainement, mon cerveau va reconstituer un événement qui n'est pas forcément la réalité, mais ce que je voudrais bien croire avoir vu. Donc, il y a un univers là-dedans. Mais bref, voilà qu'un autre pays, qui est l'Australie cette fois, vient ajouter sa voix à celle du département de la Défense aux États-Unis, du département du ministère de la Défense du Canada, qui avait mené le programme Second Story, du GEPAN en France et du gouvernement britannique. Donc le gouvernement australien vient ajouter sa voix en disant, ben là, écoutez, nous aussi, on a regardé ça, les questions d'OVNI, puis on n'a rien trouvé là-dedans. C'est drôle, hein, ceux qui sont supposés savoir, qui sont les gouvernements, hein, puis les forces militaires, puisqu'ils ont tous les moyens disponibles accessibles pour eux, pour enquêter sur ce sujet-là. Eux disent tous, on a enquêté, puis on n'a rien trouvé. Mais le gars, avec ses bottes de caoutchouc et sa tuque en papier d'aluminium aquatico, lui a enquêté, mais il n'est pas arrivé à la même conclusion. Tu sais ce qu'on va te dire? Il y a un paradoxe quand même, hein? C'est le gars dans sa cour, lui, il a le vaccin contre le cancer, mais le scientifique, l'oncologue qui travaille dans un laboratoire, lui, il sait pas comment ça marche.
Ouais, non, et c'est ça. Il nous cache des choses, sinon.
Ouais, c'est ça. Ça m'a toujours un peu intrigué, ça, cette situation-là, où l'ignorant semble tout savoir et le savant semble rien savoir. Tu sais, c'est un peu un paradoxe. Mais bon, bref, on a maintenant l'Australie qui a ajouté sa voix en disant, nous, si on enquêtait sur les ovnis et on n'a rien trouvé. Et donc là, on va aller à la pause. Puis oui. À la pause, je vais te parler, puisqu'on est en Australie, restons en Australie, regardons quelles sont les histoires qui alimentent le plus nos voisins australiens, nos voisins très très loin australiens, lorsqu'il est question de phénomènes paranormaux et particulièrement lorsqu'il est question d'ovnis.
J'achète, on est de retour dans quelques minutes et c'est même à Radio X.
Radio X Files. Here we go.
Radio X.
Radio X Files, présenté par Aluminium Perron. Préparez votre cours pour l'été avec nos produits Dexon pour plancher de patio, nos marches et murs d'intimité d'aluminium, nos pergolas et clôtures modernes. Visitez le aluminiumperron.com.
Jusqu'à dimanche chez Sport Expert, économisez 25% sur les plus grandes marques telles que Columbia, Eli Hansen, Merrell et plus. Profitez-en pour trouver le cadeau idéal pour papa. Détails en magasin.
Pour la fête des pères, offrez donc le charbon. Que ce soit au resto, dans la magnifique gare du Palais ou chez vous avec nos produits pour apporter ou même, pourquoi pas, une carte cadeau disponible en ligne. C'est pas les idées qui manquent. Bonne fête à tous les papas de la part du Charbon Steakhouse.
Travailleurs, travailleuses de la construction, le prochain scrutin syndical se déroule du 3 au 22 juin 2024. C'est le temps de confirmer votre allégeance syndicale qui sera en vigueur dès le 1er septembre 2024. Visitez le cqq.org pour obtenir plus d'informations sur le déroulement.
Pour la fête des pères, Liquida Sport paye les taxes sur plusieurs articles de golf et de deck hockey, en plus de 20% de rabais sur les chaussures de golf pour hommes et le deuxième vêtement de golf pour hommes à 50% de rabais. Tout pour gâter papa. Liquida Sport, votre incontournable golf cet été, Verne, Québec.
Québec, prêt à faire sécher vos dents au mois d'août? Le Comédia Fest est de retour pour une 25e édition du 1er au 24 août prochain avec une imposante programmation. Venez voir des humoristes comme Catherine Levac, Mathieu Pepper, Jean-Marc Parent, Corinne Côté, Phil Roy, Alexandre Barrette, Adib Al-Khalidé, Mathieu Dufour, Billy Tellier, Liliane Blanco-Binette. Faites vite! Premier arrivé, premier crampé! Laissez passer en prévente sur comediafest.com.
Une collaboration de l'Auto-Québec et Vidéotron.
Sensation Plus. Ajoutez un petit plus à votre vie intime. Faites vos achats en ligne en toute discrétion et surprenez votre partenaire avec nos huiles, jouets, lingerie et plus. Partagez le plaisir. Sensationplus.com. Livraison rapide et discrète.
Méga arrivage de cèdre de l'Ouest et de cèdre du Québec chez Limaco. Particulier ou entreprise, profitez de notre vaste inventaire de cèdre à prix compétitif pour réaliser vos travaux extérieurs. Limaco, les spécialistes en vente de bois depuis plus de 25 ans. Limaco.ca.
Nous autres chez Ralbock, on l'aime notre bière de microbrasserie. Il y en a pour tous les goûts. La petite bière douce facile aux grosses bières fortes.
c'est garanti que tu trouves quelque chose à ton goût dans le tas. Chez Ralbuck, on sait recevoir, c'est bien connu. Fait que viens te faire du fun direct sur place au pub Ralbuck de Saint-Jean-Port-Joli. Il te reste juste à te prendre une bière puis profiter de la vue.
Du fun, des chums, la bière. Viens nous voir chez Ralbuck.
J'ai chaud, là, puis l'été n'est même pas encore commencé.
Présentement, chez Club Piscine, obtenez une piscine hors terre toute équipée pour aussi peu que 2 999 $.
Ça fait du bien.
Oh, c'est pas chaud pour la pompe à l'eau.
Obtenez aussi un rabais de 400 $ sur une thermopompe Solstice.
Ah, là, elle est bonne.
Hey, papa, j'ai rien à faire, c'est plate.
Et les jouets de piscine sont à 25 % de rabais.
Wouhou, c'est le plus beau jour de ma vie.
Club Piscine Québec, tout ce qu'il vous faut pour un été mémorable.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école, là. Vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe, là. C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Entrepôt Yum Yum, jeudi 3h.
Comment ça s'appelle, là? Tu plies des petits papiers pour faire des grenouilles, mettons?
De la polygamie.
Bon, mais ma femme a fait de la polygamie.
Yum Yum, dans les patates, depuis 1959. Réunion des ventes Yum Yum, mardi 10h.
Finalement, viens-tu avec nous demain?
Non, je m'en vais au Zumba.
Oh, chanceuse, ça a tellement l'air d'un beau pays.
Yum Yum, dans les patates, depuis 1959. Conseil d'administration Yum Yum, mardi 1h.
Tiens, je t'ai rapporté ta brocheuse.
Gracias, amigo.
Oh, monsieur parle allemand.
Ouais, ben, juste un peu, là.
Yum Yum, dans les patates, depuis 1959.
Cette année, pour vous procurer votre nouvelle porte de garage, rendez-vous chez Porte Gignac. Découvrez les meilleurs modèles de portes à des prix qui défient la concurrence. Depuis plus de 60 ans, Porte Gignac vend et répare vos portes de garage et vous offre des produits de marque reconnus comme la gamme Garaga. N'allez pas ailleurs cette année. Faites des jaloux. Procurez-vous votre toute nouvelle porte de garage chez Porte Gignac. Appel d'urgence possible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une seule adresse à retenir, à gignac.com. 88-845-3636.
Fais beau, fais chaud! Pour la fête des pères, grattez-vous en famille avec le fameux baril de poulet PFK. Parce que c'est toujours le bon moment pour se régaler. On vous attend à Sainte-Marie, Montmagny, Donnacona, Vanier, Saint-Nicolas, même aux Galeries de la Capitale. PFK, le meilleur poulet frit au monde.
Salut, c'est Carbo. C'est le temps de faire traiter ta voiture à l'Anti-Roule Crown. Oui, pour un temps limité, tu épargnes 20 $ sur le traitement numéro 1 au Canada. T'es passionné d'automobile? Tous nos centres sont en période de recrutement. Visite thecrown.com pour trouver le centre le plus proche.
Le 4 septembre, la Fondation Maison Albatros vous invite à son quatrième spectacle bénéfice mettant en vedette Marc Hervieux, Marie-Denise Pelletier, Christian-Marc Gendron, Manon Séguin et l'Orchestre Symphonia de Lanaudière en version Big Band. Billets en vente à amphithéâtrecogeco.com.
L'Extra 80, le meilleur des années 80. Et l'Extra 90, le meilleur des années 90. À aujourd'hui, avec Pee-Wee, samedi et dimanche, 16h.
Radio X.
Présenté par Chapeau Ben. Pour la fête des pères, les portefeuilles Columbia en cuir sont à 9,99 et les deux lampes de travail Infinity X1 avec haut-parleur à 19,99 pour une durée limitée. ChapeauBen.com.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour dans les Radio X-Files, tout juste avant de faire la pause. Christian, tu allais nous, en fait, tu nous as teasé que tu allais nous parler des histoires, quoi, les plus populaires de l'Australie, les cas de d'ovnis, d'enlèvement ou d'apparition d'extraterrestres.
Effectivement. Quand on est en Australie, il y a plusieurs histoires qui circulent lorsqu'on parle d'ovnis, entre autres. Et on a entendu, en début d'émission, le pique-nique à Hanging Rock. Et ça, c'est une des histoires, parce que moi, j'y suis allé enquêter sur une affaire d'ovnis qui datait de 1960. Et j'étais à Melbourne et quand je parlais avec des gens, on s'est mis à parler d'OVNI, tout ça. Et une des premières histoires qu'on m'a racontée, c'est l'histoire de Picnic Hanging Rock. Mais j'avais déjà vu le film quand même, qui est, comme je l'ai mentionné, c'est un film de Peter Weir qui est sorti en 1975, basé sur un roman qui, lui, a été écrit par John Lindsay en 1967. Et donc, c'est l'adaptation de ça. Et on me parle de ça, on dit, ouais, mais il y a eu l'histoire des filles qui ont disparu à Hanging Rock. Pour rappeler un peu, vaguement, à la fois le synopsis du film et le scénario du livre. L'histoire se passe, on est en 1900, on est lors de la fête de la Saint-Valentin. On est dans un collège privé pour jeunes filles. Pour jeunes filles bien nées, entendons-nous, là, c'est vraiment le milieu très huppé. Et là, cette journée-là, on décide d'aller faire un pique-nique à Hanging Rock. J'ai expliqué un peu de quoi il s'agit. C'est une crête rocheuse qui fait à peu près là, 710 mètres de haut. Et un rocher est resté coincé entre deux parois rocheuses, d'où le nom de Hanging Rock. Et c'est un endroit qui est très prisé par les aborigènes locaux. On est à peu près à une heure de route au nord de Melbourne, dans la province de Victoria. Et donc, ces gens-là se rendent au rocher pour le pique-nique. Il faut se rappeler que dans l'hémisphère sud, en février, c'est l'été. Donc, c'est une journée, là, il fait très, très chaud. Et à un moment donné, trois des jeunes filles et une institutrice voient comme une espèce, on ne sait pas trop si c'est une lueur ou quelque chose, mais il y a une force qui les attire à monter sur le rocher. Donc, elles quittent le groupe et elles grimpent vers le rocher, le sommet du rocher, un peu comme hypnotisées. Et elles disparaissent. Pendant des jours, on est donc sans nouvelles à la fois de l'institutrice et des trois jeunes étudiantes. Puis quand je dis étudiantes, entendons-nous, c'est des adolescentes de 14-15 ans à peu près. On cherche en vain. Et là, évidemment, il y a des soupçons sur tout le monde. Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre ou quoi que ce soit? Et éventuellement, on va retrouver l'une d'entre elles, l'une des étudiantes qu'on va retrouver, une des adolescentes. On la retrouve 4 ou 5 jours après la disparition. Elle est toujours sur le Hanging Rock. Elle est cachée comme sous un surplomb de pierre. Elle est hagarde. Elle semble terrifiée. On la ramène au Apple Yard College. C'est de là qu'elles viennent, les jeunes filles. C'est là qu'elles avaient cours. Et elle ne se rappelle d'absolument rien. Elle se rappelle être montée sur le rocher avec Mademoiselle Greta McGraw, qui était l'institutrice, et ses copines. Et à un moment donné, elles se sont comme étendues dans l'herbe. Il y avait le ciel, il y avait quelque chose de lumineux dans le ciel. Et puis après, elle ne se rappelle de rien, si ce n'est de s'être retrouvée sous le surplomb de roche 3 ou 4 jours plus tard, et retrouvée par les équipes de secours qui étaient là, des bénévoles qui étaient à leur recherche. Cette histoire-là, autant dans le roman que dans le film, est présenté comme une histoire vraie. Mais c'est faux sur toute la ligne. Et ça, c'est un peu étonnant. Hein? Et je pense que beaucoup de gens ont été surpris par ça. C'est un peu un faux documentaire avant le faux documentaire. Aujourd'hui, on en voit de plus en plus de ces faux documentaires. Hein? C'est même, on appelle ça des documentaires. On les a même trouvé un nom sur toutes sortes d'affaires. Bon, le groupe Dyatlov est attaqué par un Yeti, bon, etc. Du grand n'importe quoi. Mais dans le cas d'un film, c'était assez rare. C'est peut-être même un des rares exemples où un film est présenté, autant le roman que le film, présenté comme étant une histoire vraie, alors que tout est inventé du début à la fin. Et je comprends que les gens se soient laissés prendre à ça. Moi-même, quand j'ai vu le film Picnic Hanging Rock, moi qui m'intéressais au paranormal, j'étais très intrigué par ça. Et probablement, si j'avais pas mené moi-même mon enquête sur le sujet, je serais probablement demeuré sur l'impression que l'histoire était vraie. Même quand le film se termine, et c'est vrai également avec le roman, on nous dit oui, quelques années après, on a retrouvé près d'Hanging Rock un morceau de vêtement qui semblait être un morceau de la robe de Madame McCraw. C'est comme si c'était vraiment un fait divers bien réel. Mais tout est inventé de A à Z. D'ailleurs, le jour de la Saint-Valentin de l'an 1900 n'est pas tombé un samedi, comme on le voit dans le film, mais c'était plutôt un mercredi. Okay. Le Apple Yard College n'a jamais existé. Il n'y a jamais de jeunes femmes qui ont disparu sur le Hanging Rock. Mais l'histoire est présentée de telle manière que si on va pas plus loin, on pousse pas plus loin que le roman et plus loin que le film, ben on reste sur l'impression que c'est une histoire vraie. D'ailleurs, même John Lindsay, qui a écrit le roman, compte tenu justement de cette signature qui était, comme je l'ai dit, c'était un peu assez étonnant. Il y avait, quand Gaston Leroux a écrit Le Fantôme de l'Opéra, il utilise aussi cette formule-là. Hein? La première ligne, si vous avez lu Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, la première ligne de son roman, c'est de dire « Le Fantôme de l'Opéra a bel et bien existé. J'ai rencontré le directeur du théâtre qui m'a raconté. » Donc, il le raconte comme un fait réel. Et c'est pas étonnant que les gens qui visitent l'Opéra de Paris vont vers la colonne numéro 13, puis cogne sur la colonne pour voir si elle est creuse. Moi, je me rappelle quand j'ai visité l'Opéra de Paris la première fois avec un guide, j'allais là pour m'intéresser à l'histoire du fantôme, donc j'avais rencontré une guide, elle m'a amené à la colonne 13, on cogne dessus, c'est une colonne en marbre, mais elle m'a amené dans les sous-sols de l'opéra. Il n'y a pas non plus de lac sous l'opéra, il y avait un déversoir pour l'écoulement des pluies, donc un grand bassin sous l'opéra, mais tu peux pas te promener là-dedans avec un bateau comme on le voit dans le film Le Fantôme de l'Opéra.
jamais pensé que ça faisait partie comme d'une légende urbaine.
Oui,
j'ai toujours regardé
absolument.
Ça comme une comédie musicale.
Oui. Mais quand on regarde le roman de Gaston Leroux, il commence comme ça en disant c'est une histoire vraie. Et John Lindsay a utilisé exactement la même formule, donc elle nous fait croire que c'est un fait réel, alors que tout est inventé. Et John Lindsay disait elle-même que l'histoire, d'ailleurs, lui est venue en rêve, hein, quand elle a rêvé à cette histoire-là, puis elle l'a mis en elle l'a couché sur papier, ça a donné le roman, qui est un classique en Australie, là, Picnic à Hanging Rock, tout le monde a vu ça, c'est un classique, comme si on disait ici Star Wars, là,
ouais,
là,
okay.
c'est un incontournable.
Ça veut dire qu'il y a quand même un tourisme reliant Hanging Rock, là.
Ouais, d'ailleurs, c'est un endroit, hein, qui est très populaire, hein, non seulement populaire auprès des aborigènes, même pour te dire, là, c'est comme une crête rocheuse qui forme un demi-cercle. L'acoustique est tellement extraordinaire dans Hanging Rock que plusieurs artistes qui ont fait des performances en concert. Hein, je pense par exemple à Leonard Cohen en 2010 qui était là, Rod Stewart en 2012, Bruce Springsteen en 2013.
Quand même.
Donc on va sur place et on fait des performances à ciel ouvert dans Hanging Rock justement à cause de l'écho du rocher. D'ailleurs, quand tu visites Hanging Rock, c'est assez amusant. Hein? Quand tu rentres, il y a comme... C'est un parc national. Donc, quand tu rentres, là où il y a l'entrée du parc, on te donne des brochures, etc., il y a une statue qui montre Miranda. Et Miranda, c'est une des fillettes, une des adolescentes qui aurait disparu sur le Hanging Rock. Hein? On voit la statue de Miranda, mais c'est un personnage de fiction inspiré du roman de John Lindsay. Mais tout est mis en place pour te donner l'impression que l'histoire est vraie, alors que c'est une fiction du début à la fin. Donc, si vous avez la chance de voir le film Picnic Hanging Rock, qui est très troublant, hein? C'est un film très, très lent, mais en même temps, c'est troublant la façon dont c'est présenté, la disparition des adolescentes, la panique que ça entraîne. C'est bien réussi, hein? C'est vraiment un très, très beau film à voir, et la trame musicale est vraiment fantastique. Donc, c'est une histoire qui circule beaucoup en Australie, et même au-delà, qui rayonne au-delà de l'Australie, en ce Picnic Hanging Rock. Et je dirais ensuite, si on parle d'OVNI, j'avais trois histoires pour toi, mais il faudra en remettre pour un autre moment, parce que le temps va nous manquer.
Oui.
Mais la deuxième histoire qui alimente beaucoup l'intérêt des gens qui s'intéressent à la question des OVNI, c'est la disparition de Frédéric Valentich. J'avais fait à l'époque, il y a quelques années, avec Marceau, on avait fait une émission là-dessus, donc je rappelle rapidement les faits. Frédéric Valentich est un jeune pilote, il a 20 ans, c'est un élève pilote, donc c'est pas un pilote chevronné comme certains l'ont laissé sous-entendre. Et le 21 octobre 1978, il décolle, il a un petit Cessna, un Cessna de location, un Cessna 182L, il décolle de l'aéroport de Moorabbin, c'est l'aéroport de Melbourne, et il raconte, il a changé, sa version était un peu différente, hein. Il dit à ses parents qu'il doit se rendre sur King Island. Il faut savoir que Melbourne est un peu comme dans le fond d'une baie et dont les pointes de chaque côté, là, une des pointes forme ce qu'on appelle Cap Otway. Et donc, au-delà de Cap Otway, c'est le détroit de Bass, hein, c'est l'océan Pacifique, et là, on a une île qui est King Island. Et donc, Valentich dit que ce soir-là, le soir du 21 octobre 78, il dit « Je dois me rendre à King Island. » À ses parents, il dit qu'il doit aller chercher des passagers. À d'autres, il dit qu'il doit se rendre là-bas pour prendre une cargaison de langoustines. Mais peu importe, il décolle, et à ce moment-là, c'est assez étonnant parce qu'il n'a pas de permis, c'est un jeune élève pilote, il n'a pas de permis pour voler de nuit. Et il décide quand même de décoller ce soir-là, il décolle, il est 19h06. Un petit peu plus tôt, il décolle à 18h19, excuse-moi. Okay. À 18h19, il décolle. Déjà, le soleil est pratiquement couché. En vol, il y a de la clarté, mais au sol, au niveau de la mer, c'est l'obscurité. Et ça, c'est assez étonnant parce que son permis de pilote ne lui permet pas de faire ça. Donc, il outrepasse ce que son permis l'autorise à faire. Et là, quelque part, aux alentours de 19h06, il contacte la tour de contrôle de l'aéroport de Moorabbin, et là, il dit, tour de contrôle, il demande au contrôleur, est-ce que vous avez du trafic en dessous de 5000 pieds? Et le contrôleur, un dénommé Steve Robey, dit, non, on n'a pas de contrôle, on n'a rien en dessous de 5000 pieds. Et là, Valenti se met à raconter, il dit, je ne suis pas seul, il y a un autre objet qui est là. Et là, tu peux imaginer la conversation avec le...
Ouais.
Et là, Valenti se dit, voilà, il y a un autre objet qui est là, il y a des lumières vertes. Il en parle, mais il donne pas beaucoup de description de l'objet. On sent qu'il est, semble métallique, il y a des lumières vertes, il va, il vient vers son appareil. À un moment donné, Valentin, j'ai l'impression qu'il joue avec mon avion. Et puis, à deux reprises, il dit, Melbourne, ce n'est pas un avion, c'est... Puis, à un moment donné, il interrompt sa phrase pour partir sur autre chose. Et la dernière conversation qu'on a de Valentin, c'est les 19h12. Il appelle encore une fois la tour de contrôle de Morabine. Il dit que son avion a comme dératé, son moteur cale. Et là, il dit, tour de contrôle. Il dit, ce n'est pas un avion, c'est... Et là,
ça coupe à chaque
comme
fois.
Comme il se prépare à dire ce que c'est, elle dit, moi, tu sais, tour de contrôle, ce n'est pas un avion. Je le répète, ce n'est pas un avion, c'est... plus rien. Alors là, évidemment, l'appareil de Valentich disparaît. Les amateurs d'OVNI aiment bien dire disparaît sans laisser de traces, ce qui est pas vrai. On a retrouvé des morceaux de son avion, mais c'est pas grave.
Ça se volatilise mais, pas, là.
Mais sans laisser de traces, c'est toujours bon, ça. Fait que donc, l'avion disparaît. On va organiser d'immenses recherches en mer dans le but de retrouver l'avion de Valentich. Et à ce moment-là, ça, c'est l'affaire sur laquelle j'avais enquêté. Quand je parlais avec les représentants du département de la Défense en Australie, le ministère de la Défense en Australie, eux, ils n'ont jamais tenu compte d'un OVNI. Hein, ça fait pas partie des hypothèses vraisemblables. Au départ, leur première hypothèse de départ, c'était que Valentich, qui outrepassait en fait son permis, avait probablement confondu des navires en mer. Il faut savoir qu'il y a des navires qui se déploient dans le détroit de Bass la nuit et avec de fortes lampes, ils éclairent l'eau pour faire remonter les langoustines à la surface. Ils les attirent avec ça.
Ah.
Or, comme Valentich est en vol, au loin, le ciel, l'obscurité du ciel se confond avec l'obscurité de la mer. Et là, la première hypothèse, c'est qu'il voyait des bateaux au loin, mais il croyait que c'était un objet qui était en l'air et les grosses lumières qu'il voyait dessus, c'était les lumières qui servaient à attirer les langoustines en surface. Ça, c'était l'hypothèse de départ. Et là, ben, comme il volait sans... Il volait, là, c'est un appareil, il y a pas tous les instruments qu'on retrouve dans un Boeing 747. Là, tu sais, il y a 3 ou 4 cadrans. Probablement que Valentich, tellement préoccupé par ces lumières qu'il voyait au loin, ben, a perdu de l'altitude et sans s'en rendre compte, ben, il a crashé dans la mer. Ça, c'est l'hypothèse, la première hypothèse qu'avaient développée les autorités. Mais quand on s'est mis à fouiller dans le passé de Valentich et surtout ses dernières actions, on a comme changé complètement d'hypothèse. Pour eux, Valentich, ou bien il s'est suicidé, ou il a essayé de monter un canular qui a mal tourné. Parce que Valentich, puis là, je vois que le temps file, mais bon, Valentich était un menteur. Hein, c'est un type, c'est un cancrin. Il avait échoué à l'école. Il avait essayé d'entrer dans l'armée. Il avait échoué. Ensuite de ça, il avait réussi à convaincre ses parents de lui payer des cours de pilote. Et donc, ses parents avaient pratiquement hypothéqué leur maison pour lui payer des cours de pilote. Et là, il disait à ses parents, ça va bien, écoute, j'ai été reçu. Puis là, il racontait des scénarios qui étaient pour aller pilote, soit militaire ou pilote dans l'aviation civile, alors qu'en réalité, il avait échoué tous ses examens. Il s'était fermé les portes. C'est sûr que Valentich n'allait jamais devenir un pilote dans l'aviation civile, ni non plus un pilote militaire. Mais il continuait de mentir à tous les gens autour de lui.
C'est tellement triste, ça.
Oui, et le jour de sa disparition, hein, il travaillait dans un restaurant de restauration rapide, McDonald's, pour ne pas le mentionner. Et généralement, quand il louait son avion, hein, c'est un avion de location, il s'assurait toujours de mettre l'essence qui était nécessaire en fonction des règlements. Donc, si on calculait qu'il devait se rendre de A à B, on disait, bon, ben voilà, ça demande 25 litres d'essence, plus 10 ou 20% selon les règles de l'aviation civile. Ce jour-là, Valentich avait besoin à peine d'un demi-réservoir de carburant. Il a rempli l'avion au bout. Ensuite de ça, quand il a quitté l'aéroport de Morabine pour se poser sur King Island, un des contrôleurs aériens lui a dit, quand tu vas arriver à King Island, la nuit va être complètement tombée. Et l'aéroport de King Island est un tout petit aéroport. C'est même pas un aéroport, c'est un aérodrome.
C'est pas super éclairé, j'imagine.
Et là, sur place, il faut appeler le contrôleur qui est là-bas. Il y a un gars, il y a un gardien, il faut l'appeler pour qu'il allume les lumières. Fait que le contrôleur à Melbourne dit à Valentich, est-ce que tu veux que j'appelle le gars à King Island pour qu'il allume les lumières de la piste? Valentich répond, ça sera pas nécessaire.
Mais boy.
Ben là, si c'est pas nécessaire, tu t'en vas où? Et ensuite de ça, Valentich, quand on a vérifié à King Island, on a découvert qu'il y avait aucun passager qui attendait Valentich là. Il y avait non plus aucun pêcheur qui était là pour lui remettre une cargaison de langoustes. Bref, il y a plein de choses qui commencent à pas fonctionner dans cette histoire-là. Et quand il contacte l'aéroport de Morabine pour dire, avez-vous du trafic sous 5000 pieds? Il sait au départ que l'aéroport ne peut pas détecter un avion en dessous de 5000 pieds à cause des montagnes le long de la côte. Donc, il s'assure, hein, c'est un peu comme s'il s'assurait qu'on qu'on pouvait pas voir en dessous de 5000 pieds. Et là, il raconte son histoire d'OVNI. Pourquoi? Ben, faut dire que Valente s'intéressait beaucoup à la question des OVNI. Il en parlait. C'était un de ses sujets de discussion favoris. Il avait entendu parler d'une histoire aux États-Unis, notamment là, un type qui s'appelle Travis Walton, qui disait avoir été enlevé par des extraterrestres, puis qui avait fait pas mal de fric avec cette histoire-là. Et là, c'est comme si ce Frédéric Valente voulait devenir le nouveau Travis Walton australien. Mais malheureusement, mal lui en prit, parce que probablement ce que pensent les autorités, c'est qu'il a volé très très bas pour s'assurer de ne pas être détecté par les tours de contrôle. Il a probablement pris la direction de l'île de Tasmanie, d'où le fait que son réservoir de carburant était plein. Son intention était probablement d'atterrir quelque part sur une des nombreuses îles du détroit de Bass, et ensuite de ça faire à croire qu'il avait été enlevé par des extraterrestres ou des trucs comme ça.
Donc, mais malheureusement, faire ce qu'il a fait depuis tout le début de sa vie, c'est-à-dire les choses un petit peu à moitié, tout croche, pour avoir de la reconnaissance.
Voilà. Et en 1983, donc 5 ans après la disparition de Valente, et là, ça va... Là, je le sais, il y a des amateurs de venir qui vont déchirer leur chemise.
La dernière.
En 1983, sur une île, d'ailleurs, une île qui n'est pas habitée, qui est simplement une piste d'atterrissage, sur la partie de l'île qui n'est pas habitée, où il n'y a qu'une piste d'atterrissage, on a trouvé un volet de moteur. Et ce volet de moteur est un volet de moteur pour un appareil 182L. Et quand on regarde le type d'appareil qu'utilisait Valentich, la couleur de l'appareil et les numéros de série, ils proviennent de la même section. Donc, le morceau qu'on a trouvé, le volet moteur, c'est un volet moteur de l'avion de Valentich. Donc, visiblement, il se dirigeait pas vers King Island, il se dirigeait ou bien vers Flinders Island ou Almock Island, une autre île inhabitée dans le détroit de Bass. Il y avait une idée derrière la tête et ça a mal tourné. Mais les ovnis, les extraterrestres n'ont rien à voir là-dedans.
C'est ça, juste ça quelqu'un qui a été maladroit puis
c'est un canular qui a mal passé.
Voilà. Ben Christian, encore une fois, le temps nous manque, mais ça a été super fascinant.
Je voulais te raconter l'histoire d'un gars qui s'est étouffé avec un mamelon extraterrestre, mais ce sera pour un autre.
Pour vrai?
Elle était bonne, celle-là. Elle écoute. Mais bon, je la garderai pour une autre fois. C'est l'une des histoires les plus ridicules qu'on m'a racontées. Écoute. À mourir de rire.
Ben, je te raconterai une autre fois. J'espère. Veux-tu faire une deuxième partie la semaine prochaine? On n'a même pas parlé du monsieur israélien qui dit que les ovnis existent, là, puis qu'ils sont plus intelligents que nous et tout. Je sais pas si t'as vu ça cette semaine.
Ben oui. T'sais, écoute. Ben écoute, on s'en fait la semaine prochaine, je te parle de ce type-là, une rencontre du 7e type. Attention, c'est pas du n'importe quoi, et je te parle de quelques actualités sur les ovnis.
Donc, ben depuis cette saison-ci, on a brassé l'ordre, il y a eu des vacances, fait que gars, on se fait une partie 2 des ovnis la semaine prochaine. T'as trop attiré mon attention avec le mamelon extraterrestre.
Ouais.
Je te souhaite de passer un beau week-end.
Et le poil pubien martien.
Oh mon Dieu! Pour un public averti, vendredi prochain. Bon week-end aux auditeurs et à toi aussi, Christian. Je te remercie encore pour ce soir.
Ça marche, bye-bye.
Bye-bye.
Radio X-Files.
Radio X.
Radio X-Files, présenté par Aluminium Perron. Préparez votre cours pour l'été avec nos produits d'Exone pour plancher de patio, nos marches et murs d'intimité d'aluminium, nos pergolas et clôtures modernes. Visitez le aluminiumperron.com.
Le retour de Radio X.
Je pense qu'on a un rapport, on fait une moyenne, ces gens-là, mettons, ils étaient 150 à dire on veut 100 km de transport en commun, 28 km de tramway, on veut 7 km de centre-ville à centre-ville, on veut 30 km d'SRB. Tu penses que les gens disent ça?
Voyons donc, jamais. Les gens ont dit le contraire.
3,
ça,
4,
c'est des
5,
lobbies de Montréal d'écolo, là. On se comprend, là.
Oui. Le retour de Radio X. Lundi au vendredi, 14h30.
Radio X. Présenté par Honda de Giro. Pour un Honda neuf ou d'occasion, c'est Honda de Giro. Obtenez un plus gros montant pour votre véhicule d'échange avec Honda de Giro de Montmagny. Facile et flexible. HondaDeGiro.com.
Pour un défi sans quitter la ville sur un terrain de qualité exceptionnel, pensez au golf de la Fonde. Évitez le trafic et les tracas du pont. Utilisez le code Autruche Radio X lors de votre réservation et profitez d'une partie 18 trous à pied dès 15h pour seulement $55. GolfDeLaFonde.com.
Si on te dit homard, carpaccio de bœuf, tartare et tataki de thon, tu penses à quel resto? Eh oui, la Belle et la Bœuf. Cet été, on t'offre un tout nouveau menu fraîcheur avec plusieurs nouveautés. Viens l'essayer, la Belle et la Bœuf, place Sainte-Foy.
Ici Martin, ma pète puis répète sont chez Maxi. Pète tombe dans les filets de porc. Qui reste? Il reste répète. Mais lui, il était tombé plus loin dans les contre-filets.
Répète. Maxi, c'est pas une joke. C'est la place pour trouver jusqu'à 100 coupes de viande d'ici à bas prix.
Pendant que vous fêtez les 2 ans de Charlotte avec toute votre famille, l'AMF veille. Pendant que vous pédalez comme un forcené sur votre vélo stationnaire pour retrouver votre forme d'antan, l'AMF veille. Pendant que vous regardez en rafale votre série préférée, l'AMF veille sur vos dépôts en les protégeant au cas où une institution financière provinciale ferait faillite. Continuez de profiter de la vie. L'AMF veille. Pour en savoir plus, consultez l'autorite.qc.ca. Un message de l'Autorité des marchés financiers.
Pour un temps limité chez Sport Expert, économisez 20% sur les plus grandes marques telles que Nike, Under Armour, Adidas et bien plus. Profitez-en pour trouver le cadeau idéal pour papa. Détails en magasin.
C'est votre dernière chance de profiter des promos du printemps chez Enviroconfort. Additionnez-les aux subventions offertes pour économiser au max sur votre nouveau climatiseur ou votre thermopompe. Enviroconfort, votre source de fraîcheur pour l'été à Québec et Lévis. Enviroconfort.com.
Saucisse nachos.
Arriba!
Saucisse jamaïcaine.
Yama.
Oktoberfest!
62 variétés de saucisses Sochaux prêtes pour vos barbecues, dont la cheeseburger. Sochaux le saucissier, l'original.
C'est la grande vente des vacances estivales, incluant un spécial sur la piscine Trévis Futura tout en béton pour seulement $21,999. Et ce prix inclut un rabais de $5,000, un couronnement de pavé gratuit d'une valeur de $3,000, une marche avec un bain intégré d'une valeur de $5,000, un chauffe-eau 50 000 BTU gratuit, un plan d'implantation technique fait par un dessinateur professionnel et bien plus. Tout ça livré à temps pour les vacances avec plusieurs plans de financement disponibles. Trévis. Une longueur d'avance.
Offrez-vous des fondations et enveloppes de bâtiments sécuritaires et éco-énergétiques avec système Polycrite. Manufacturier du coffrage isolant Big Block. Pour vos projets commerciaux, résidentiels ou agricoles, c'est système Polycrite. La référence en coffrage isolant. Systèmepolycrite.com.
Le coût de la vie augmente. Et si ce n'était pas le cas pour vos assurances? En les magasinant